Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'Union européenne a donné son feu vert pour le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech. Cela ouvre la voie au lancement des vaccinations dans les 27 États membres de l'Union dès ce dimanche. Attention à ne pas piétiner toutefois le consentement des personnes âgées lors de cette vaccination, c'est ce que dit déjà le Comité consultatif national d'éthique en France. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et l'Union européenne n'ont toujours pas trouvé de solution pour que les ressortissants étrangers coincés outre-Manche puissent rentrer chez eux sans transporter la nouvelle souche de Covid-19. Reportage dans cette édition à Calais, dans un port presque à l'arrêt. Nous irons aussi en Australie, où là, ce sont les habitants de Sydney qui inquiètent. Un foyer de contamination de Covid-19 a été détecté dans la plus grande ville du pays. C'est une première depuis des semaines. Et puis, direction le Maroc, avant le premier vol cet après-midi entre Tel Aviv et Rabat, de nombreux Marocains ne voient pas ce rapprochement d'un très bon œil. L'Agence des médicaments et la Commission européenne ont donc donné leur accord pour une vaccination de Pfizer-BioNTech. La campagne va pouvoir commencer juste après Noël, dès ce week-end. Voilà ce que disent les représentants de l'Agence du médicament et de la Commission européenne. Une campagne qui se fera simultanément dans tous les pays de l'Union. En France, les entrepôts de distribution se tiennent prêts. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera d'ailleurs dans l'un d'entre eux aujourd'hui, ce matin. Mais attention ensuite à la vaccination. Hier, le Comité consultatif national d'éthique rendait son avis sur la politique de vaccination et il alerte. Attention à la question du consentement de la personne vaccinée et surtout pour les personnes âgées en EHPAD. Le CCNE donne un mode d'emploi sommaire pour recueillir ce consentement, Hélène Chevalier.
Dans son avis, le comité d'éthique insiste, la volonté de la personne doit toujours primer et pour cela, il faut avant tout que soit dispensée aux résidents une information loyale et compréhensible des bénéfices et des risques de la vaccination. Une étape fondamentale pour créer la confiance, en particulier dans cette période de défiance vaccinale, écrit le CCNE. Il estime qu'il faut ensuite un temps de réflexion personnelle, sans en préciser la durée, mais un temps nécessaire, notamment pour que la personne âgée puisse s'extirper des éventuelles pressions des uns et des autres. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que le résident effectuera la vaccination, s'il le souhaite. Son consentement devra être plus formel que pour la vaccination contre la grippe, où il est parfois recueilli sans véritable vérification que l'information a bien été comprise. Un consentement éventuellement par écrit. Et pour les 40 à 60% de résidents dont les troubles cognitifs empêchent d'exprimer leur avis, ce sera en priorité à la personne de confiance de prendre la décision, à la famille ou au tuteur s'il n'en a pas.
Hélène Chevalier, alors que se prépare donc la vaccination contre le Covid-19 en Europe. Et a priori, les sérums administrés devraient lutter contre la variante du Covid, variante détectée en nombre en Grande-Bretagne. Le territoire est comme coupé du monde depuis dimanche soir. On peut y aller, mais il n'est plus possible de revenir du Royaume-Uni. Les pays européens devraient prendre une décision plus pérenne dans les heures qui viennent pour organiser notamment le retour de leurs ressortissants, pour organiser aussi le transport de marchandises qui est touchée depuis 2 jours et à quelques jours seulement du Brexit. C'est un coup dur pour les routiers. C'est ce qu'a pu constater Grégoire Lecalot sur le port de Calais.
Sous la pluie et le vent, le port de Calais ressemble à un désert humide. Derrière de hautes barrières blanches surmontées de barbelés, des camions embarquent encore dans un ferry, mais depuis dimanche soir, le trafic a été divisé par 10 par rapport à une journée classique. Luigi, routier italien, va passer sans savoir quand il reviendra. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir, mais je n'ai pas le choix. Je vais attendre et on verra ce que sera demain. Je ne sais pas, je vais voir ce que disent les autorités. Sur les autoroutes autour de Calais, les longues files de camions de ces dernières semaines ont disparu. Les transporteurs sont désormais réticents à envoyer des chauffeurs de l'autre côté de la Manche. Sébastien Rivera de la Fédération des Transports du Pas-de-Calais.
Effectivement, on peut encore passer en Grande-Bretagne, mais on n'a aucune garantie sur le retour. Donc dans l'incertitude, la plupart des entreprises ont décidé de ne pas envoyer leurs véhicules en Grande-Bretagne pour éviter de laisser coincer des conductrices et des conducteurs à la veille de Noël. Il va falloir trouver des solutions, parce que bon, à terme, c'est l'approvisionnement de la Grande-Bretagne qui est mis en danger en fait.
Et de l'autre côté des eaux grises de la Manche, des milliers de camions s'entassent sur les parkings et les routes qui mènent à Douvres en espérant revenir avant Noël.
Grégoire Lecalot. Parallèlement à cette crise sanitaire, Bruxelles et Londres discutent aussi toujours du futur Brexit. Plusieurs sujets dont la question de la pêche constituent des points de désaccord. Le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune le concédait hier. Les discussions pourraient donc durer quelques heures encore ou peut-être quelques jours. Et sans accord commercial au 31 décembre, la semaine prochaine, les échanges entre l'Union européenne et les Britanniques se feront selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui est synonyme de droits de douane ou de quotas. Le conseiller et gendre de Donald Trump est en Israël en ce moment. Jared Kushner doit d'ailleurs prendre aujourd'hui le vol inaugural qui relie Israël au Maroc. C'est une première symbolique pour parachever la normalisation entre les deux pays. Si les Marocains sont ravis de la reconnaissance officielle par les États-Unis de leur souveraineté sur le Sahara occidental, la reprise des liens avec Israël, elle, n'emporte pas l'adhésion de tous. Jared Kushner n'arrive donc pas en terrain conquis au Maroc. Il doit atterrir cet après-midi à bord du vol LY555, c'est dit Kralfi.
Le choix de ce numéro de vol est tout un symbole, 5555 comme la Khmissa, la main de Fatima ou main de Myriam, symbole de protection et de paix au Maghreb comme en Israël. Jared Kushner et la délégation américano-israélienne seront reçus par le gouvernement islamiste PJD. Pour l'ambiance, Mohamed Amekraz, le ministre de l'Emploi et secrétaire général de la jeunesse PJD, déclarait il y a quelques jours sur une chaîne du Hezbollah que tous les Marocains rejettent cette normalisation.
C'est la position de tous les Marocains, pas seulement du PJD.
Autre voix dissonante, celle du supporter de football, les Green Boys du Raja ont fait retentir des chants pro-palestiniens pendant les derniers matchs de l'équipe casablancaise. De quoi mettre du baume au cœur à Sion Assidon, militant historique de la cause palestinienne et des droits de l'homme. Il a été empêché de manifester cette semaine.
L'espace public est aujourd'hui interdit pour l'expression d'une position contraire au point de vue officiel.
Pour lui, Jared Kushner n'est pas le bienvenu.
Jared Kushner, sous influence du rabbin Pinto, représente bien le point de vue des chrétiens sionistes, les évangélistes qui sont derrière Trump. Il vient défendre un projet colonial raciste. Il n'est pas le bienvenu au Maroc.
Après ce vol inaugural, la compagnie El Al prévoit au moins un vol quotidien reliant Israël et le Maroc.
C'était Cédric Ralfi depuis le Maroc pour France Culture. Alors quels enjeux diplomatiques dans ce rapprochement entre Rabat et Tel Aviv? Guillaume Erner posera la question ce matin à partir de 7h14 tout à l'heure sur France Culture. Plus de 600 000 personnes aux États-Unis ont été vaccinées ces 8 derniers jours, c'est-à-dire environ une personne sur 500 dans le pays. La campagne bat son plein et le président élu Joe Biden a même voulu montrer l'exemple, vacciné hier soir face caméra. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Washington dans le journal de 7h dans moins d'une demi-heure. D'ici là, c'est en Australie que nous nous arrêtons. Après plusieurs semaines sans aucun nouveau cas de Covid-19, un nouveau foyer est apparu il y a quelques jours à Sydney. Tous les États du pays se referment donc sur eux-mêmes. Ils interdisent aux habitants de Sydney de quitter la métropole. Une mesure lourde de conséquences, évidemment, à l'approche des fêtes de fin d'année. Explication de Grégory Pless.
Après Melbourne, pendant l'hiver austral, c'est maintenant Sydney qui est indésirable. À partir de lundi soir, les portes de tous les autres États australiens seront fermées aux 5 millions d'habitants de la ville, mais aussi à tous ceux qui étaient simplement de passage. C'est par exemple le cas de Vicky. Elle était arrivée il y a 3 jours pour passer Noël avec sa famille. Elle retourne finalement à Brisbane dès lundi.
Je suis vraiment triste parce que je devais passer 4 jours avec ma fille et finalement je dois repartir dès ce soir et puis ça me coûte aussi de l'argent.
Comme des milliers d'autres, elle a dû racheter un billet d'avion à la dernière minute, sans quoi, à son retour, elle aurait dû subir une quarantaine de 2 semaines dans une chambre d'hôtel, surveillée par des gardes et facturée 2000 euros. Pourtant, malgré les déconvenues, elle comprend et soutient la fermeture des frontières intérieures.
Personnellement, je pense que c'est la bonne décision à prendre, car il faut faire comme si tout le monde était porteur du virus et être très prudent.
La fermeture des frontières ne pouvait pas tomber plus mal alors qu'on entre en Australie dans la période des grandes vacances. La situation pourrait durer. La plupart des États imposent un délai de 14 à 28 jours d'affilée sans aucun nouveau cas de transmission locale pour rouvrir leurs portes.
Grégory Pless, correspondant en Australie de France Culture. Les éclaircies seront belles sur le sud de la France métropolitaine ce mardi, gagnant légèrement du terrain vers le centre au fil de la journée. Ailleurs, c'est-à-dire sur la moitié nord, au nord de la Loire, les averses sont toujours d'actualité. Ce matin, il fait 8 degrés à Lyon, 10 degrés sous le soleil de Nice, mais déjà 13 sous la pluie à Brest et à Paris.